Voici les titres du journal.
Le Chablouse Festival Montaigne n'aura pas lieu cette année. Les organisateurs ont en effet décidé de repousser leur 5e édition pour la 3e fois consécutive. On retrouvera en direct Pascal Vigolo, l'un des organisateurs du festival. Dans sa transition numérique, le canton de Vaud souhaite accompagner les citoyens et les communes. L'État s'est aussi chargé de créer les postes nécessaires à cette mission. L'orgue de la basilique de l'abbaye de Saint-Maurice va subir un relevage et développer d'autres dimensions musicales et artistiques. Un projet ambitieux à découvrir dans ce journal. En hockey sur glace, les festivités liées au 100e anniversaire du LHC seront nombreuses en 2022. Et en ski alpinisme, deux nouveaux titres nationaux se joueront dans la région ce week-end.
Du soleil, mais une forte bise pour cet après-midi sur la Riviera. Et pour ce week-end, un temps bien ensoleillé nous est annoncé par Météo Suisse. Une météo complète qu'on va développer à la fin du journal. Un journal qui nous est présenté par Léa Journeau. Bonjour Léa.
Bonjour Axel, bonjour à tous. En 2019, l'État de Vaud était le premier à se doter d'une stratégie numérique. 3 ans après, l'État se dit satisfait des progrès faits en la matière. Il l'a réaffirmé hier lors d'une conférence de presse. Pour la présidente du gouvernement, le canton a trouvé le bon équilibre en ne cherchant pas à tout prix du numérique partout. Et d'un autre côté, les moyens ont été mis puisqu'actuellement, ce sont près de 440 personnes qui travaillent à la Direction générale du numérique et des systèmes d'information. Un de ces postes est celui de délégué au numérique. Mais quel est son rôle ? Explication de la principale intéressée, Catherine Pugin.
Alors mon rôle, très concrètement, c'est de coordonner la mise en œuvre de la stratégie numérique du Conseil d'État. Il y a un rôle à l'intérieur de l'administration qui est d'expliquer les enjeux du numérique aux différents services en matière de protection des données personnelles, etc. Et puis, il y a un rôle qui est plus tourné vers l'extérieur, au niveau intercantonal, avec les relations avec la Confédération, qui est aussi de porter le point de vue du canton de Vaud sur ces enjeux numériques, etc., avec ces acteurs-là.
Le canton de Vaud s'est aussi montré pionnier en mettant en place un centre opérationnel de sécurité qui emploie 35 personnes. Le SOC est organisé sur les bases de 4 piliers. Précision avec le directeur de la sécurité numérique, Marc Barbeza.
Le premier axe, c'est vraiment la sécurité avec les personnes. C'est dans une logique de sensibilisation, de formation des personnes pour améliorer la culture sécurité. Le deuxième axe, c'est de pouvoir restreindre qui a accès à quelles informations. Le troisième, c'est cet axe, on va dire, qui est très important au niveau de l'architecture des systèmes d'information pour ajouter des couches. Et finalement, avant d'arriver à une information, c'est de devoir passer par différentes couches de protection. Et puis la quatrième, finalement, c'est si les 3 premières n'ont pas été suffisantes, de pouvoir être en mesure de détecter un problème et puis de réagir.
Des propos recueillis par Quentin Fray. En parallèle, le canton de Vaud et la police cantonale lancent une campagne de prévention contre les cyberattaques ou les arnaques en ligne. Elle sera diffusée prochainement, entre autres via Facebook et Instagram.
La reprise d'exploitation de la décharge du Châtelet n'est pas au goût de tout le monde à Port-Valais.
Certains habitants se sont constitués en associations citoyennes. Leur but est, disent-ils, d'informer équitablement la population en vue de la votation communale du 13 février. En effet, dans 3 semaines, Port-Valais se prononcera sur un changement du plan d'affectation des zones. Cette modification permettrait à long terme l'implantation du futur tunnel de contournement du Bouvray et à plus court terme, un léger agrandissement de la décharge existante. Propriétaire du site depuis 2011, Satom prévoit de l'assainir puis de le réexploiter pendant 10 ans avant de le revégétaliser. L'association citoyenne contre la décharge du Châtelet déplore notamment un manque de communication, de transparence et de garantie de la part des autorités communales.
À Saint-Maurice, l'orgue de la basilique va subir un superlifting.
Un relevage plus précisément, soit un démontage complet afin de prendre soin de chaque pièce. Mais le projet de la fondation de l'abbaye de Saint-Maurice ne s'arrête pas là, comme l'explique son vice-président Bernard Vollerin.
L'orgue va être agrandi sur plusieurs niveaux. On va lui ajouter 644 tuyaux de ce qu'on appelle le solo expressif, qui va apporter de la couleur et une harmonisation encore beaucoup plus étendue et riche, disons, de l'orgue. À la console principale, on va passer de 3 à 5 claviers, qui va donner donc beaucoup plus de possibilités d'interprétation aux organistes. Et surtout, on va créer une console mobile, qui sera donc une console déplaçable, qui sera placée en général près du cœur de la basilique, Vous avez les gens dans la basilique qui assisteront à une liturgie ou qui assisteront à un concert verront l'organiste au milieu d'eux, en face d'eux, qui pourra être comme dans un concert où il y a un piano et un orchestre autour. On aura la console ici avec l'organiste et autour des voix ou des instrumentistes. Ce sera un effet absolument fabuleux.
Et ça, c'est quelque chose d'assez inédit en Suisse.
À notre connaissance, des consoles mobiles, il y en a quelques-unes, disons, en Suisse. Mais une console mobile qui permettra de jouer à la fois du grand orgue et de l'orgue de chœur, ou l'un ou l'autre en alternance ou de concert, à notre sens, c'est la seule installation qui possède ceci en Suisse, oui.
L'objectif n'est pas d'intéresser uniquement les aficionados de l'orgue, mais un public beaucoup plus large, comme l'explique Olivier Roduit, procureur de l'abbaye à Gonoise.
Cette dimension culturelle qui est très importante pour nous, il faudra qu'on trouve le moyen d'intéresser ce public qui hésite peut-être à entrer dans une église pour découvrir un instrument absolument fabuleux.
Le relevage de l'orgue ainsi que le développement d'un centre d'excellence ont un coût estimé à 2,5 millions de francs. La fondation de l'abbaye de Saint-Maurice recherche encore des fonds. Plus d'informations sur fasm.ch/orgue. Un sujet signé Valérie Blom. Et puis on vous le disait en titre, le Chablous Festival Montaigne n'aura pas lieu cette année. Les organisateurs ont décidé de repousser pour la troisième fois consécutive leur cinquième édition. Pour en parler, nous accueillons Pascal Vigolo, l'un des organisateurs. Bonjour.
Bonjour.
Alors, le Chablous est une nouvelle fois reporté. Pourquoi avoir pris une telle décision ?
Bien, parce que, pour vous expliquer le processus d'organisation du Chablous, nous, normalement, à la fin décembre, on a toute la programmation qui est bouclée, et puis tous les devis liés à nos frais fixes, donc que ce soit la scène, l'installation des WC mobiles, etc., qui sont prêts, et puis on monte les dossiers et on va démarcher nos partenaires. Et puis, malheureusement, depuis 2 ans, en plein milieu de l'hiver, c'est là que le Covid bat son plein. Et voilà, donc on est dans l'incertitude totale, ce qui fait qu'on n'a pas pu commencer à temps. Et puis, il y a une autre raison qui fait que c'est très compliqué de clôturer le parc, parce que c'est un espace vraiment immense. Et puis, ce serait logistiquement très compliqué de devoir contrôler d'éventuels passes, etc. Donc, on a préféré garder nos réserves de côté, nous économiser et puis proposer une prochaine édition, donc la cinquième en plus, donc c'est pas rien, qui sera a priori, comme d'habitude. Ouais, exactement. Ouais.
Alors, je vous l'avais dit, hein, c'est la deuxième année, c'est la troisième fois consécutive que vous repoussez. Évidemment, on imagine une certaine déception, mais vous perdez pas espoir de pouvoir tout de même la faire, cette cinquième édition, l'année prochaine.
Non, bien sûr. On voit que la situation s'améliore, certes petit à petit, mais que par rapport au début de la pandémie, ça va quand même mieux. Donc on garde espoir que l'été prochain, on pourra faire l'édition sans restriction, sans rien, un peu comme à l'époque.
Quelles sont les conséquences de ce report pour vous ? Est-ce que vous ne craignez pas de perdre un petit peu le contact avec vos festivaliers ?
Alors ça, c'est toujours le risque, évidemment. Après, on a la chance d'avoir un public relativement local et fidèle. Et puis on se rassure en se disant qu'on est parti de rien, que les gens sont quand même venus. Donc on espère que quand on va repartir de presque rien, les gens seront toujours au rendez-vous.
Puis c'est aussi l'occasion peut-être de garder le contact via les réseaux sociaux, de trouver d'autres solutions pour garder ce contact.
Oui, alors tout à fait, oui. Tout à fait. Ça, il faudra qu'on trouve une façon de fournir du contenu, de rappeler aux gens qu'on existe sans malheureusement le festival.
Est-ce que vous avez déjà choisi une date précise pour la tenue de la prochaine édition, ou alors on reste avec l'été 2023 en attendant d'en savoir plus ?
Alors, c'est à peu près ça. Tout ce qu'on peut vous dire, c'est que ce sera probablement en août. Probablement début mi-août, un peu comme chaque année. Et puis à voir après, en fonction des différentes manifestations, des vacances scolaires, ça sera déterminé un peu plus tard.
Eh bien, parfait. Merci Pascal Vigolo.
Merci
on le rappelle,
beaucoup.
Vous êtes l'un des organisateurs du Chablous Festival Montaigne qui a décidé de reporter sa cinquième édition en 2023. Une belle journée à vous.
À vous aussi, merci beaucoup.
Un oui et les trois noms, c'est le verdict qui pourrait sortir des urnes le 13 février si les électeurs suisses votent comme le prédisent les sondages. Ce devait être oui à l'initiative Enfants sans tabac, même si le soutien s'érode. Non très net à l'autre initiative populaire qui veut interdire les expérimentations animales. Non aussi aux deux lois combattues par référendum, au soutien aux médias et à l'abolition du droit de timbre d'émission. C'est le soutien aux médias qui paraît être le plus indécis à trois semaines de la votation. L'analyse à Berne de notre correspondant Serge Jubin.
Les résultats de trois sondages ont été publiés, le troisième ce vendredi du groupe Tamedia. Un quatrième sondage SSR arrivera encore ces prochains jours. Les regards se focalisent sur le soutien aux médias, objet le plus disputé. Les sondeurs ne sont pas d'accord sur l'issue du vote. Le sondage SSR GFS Berne donnait début janvier un match nul, 48% pour, 48% contre. Tamedia a toujours donné le non gagnant, 51% il y a trois semaines, 57% de non aujourd'hui contre 39% de oui. Ce sera l'objet à suspense du 13 février. Avec, à trois semaines du scrutin, une tendance donc au rejet. Les choses paraissent plus claires pour les trois autres objets. Le oui à l'initiative qui veut interdire toute publicité pour les produits du tabac visibles des enfants et des jeunes est solide, même s'il s'érode, comme c'est la coutume avec les initiatives. Le oui était à 73% pour le premier sondage SSR, 67% pour le premier Tamedia et 62% aujourd'hui pour la deuxième enquête. Les femmes et la Suisse romande sont les plus favorables à ce texte. Si le sort de l'initiative qui veut interdire l'expérimentation animale est jetée avec désormais plus de 70% de non, l'abolition du droit de timbre d'émission, combattue par un référendum de la gauche, est loin de la majorité. Le sondage SSR lui donne 42% de oui, Tamedia seulement 32%. Il y a encore beaucoup d'indécis concernant cet objet financier technique. Faute de compréhension claire de l'enjeu, ces indécis risquent de passer dans les rangs des adversaires. L'un des paramètres d'analyse de la votation du 13 février, ce sera la participation exceptionnellement élevée lors des rendez-vous de 2021. On pressent un recul le 13 février, faute d'objets très mobilisateurs. Cela pourrait avoir un impact que les sondages ne modélisent pas.
C'était une analyse de notre correspondant parlementaire à Serge Jubin.
Un loup a été abattu hier dans la région grisonne de la Surselva.
Les autorités cantonales ont pris cette mesure car le canidé s'était comporté de façon problématique ces dernières semaines. Il s'était en effet approché d'êtres humains de manière répétée et à une distance dangereuse dans des zones habitées. Avant d'effectuer le tir, les gardes-chasse ont d'abord tenté en vain d'équiper le loup avec un émetteur ou de l'effrayer avec des tirs de balles en caoutchouc, a précisé à Kiston ATS le directeur de l'Office cantonal de la chasse et de la pêche. Genève est à nouveau le centre des discussions sur l'Ukraine et la sécurité européenne. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken et le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov ont entamé ce matin leur réunion dans un climat de tension extrême. Le piratage informatique dont a été victime le Comité international de la Croix-Rouge visait directement le logiciel de l'organisation et non la société qui hébergeait les serveurs. Le CICR traite depuis longtemps avec ce fournisseur car il applique, je cite, « la même rigueur et les mêmes normes que nous le ferions pour n'importe quel serveur hébergé en interne », selon les dires d'une porte-parole de l'organisation à Keystone ATS. Cette cyberattaque compromet les données de plus d'un demi-million de personnes vulnérables. On passe au sport, hockey sur glace. 2022 rimera avec festivité pour le Lausanne Hockey Club. Et pour cause, le LHC fête son siècle d'existence. Au programme des 12 prochains mois, plusieurs événements se tiendront dans des lieux qui ont marqué l'histoire du club. Ce sera notamment le cas lors du premier semestre où plusieurs soirées avec les partenaires sont prévues à la patinoire de Montchoisy en février. Un match des fondateurs se disputera quant à lui en mars à la Vaudoise Arena. Le nouvel écrin lausannois sera beaucoup plus sollicité lors du second semestre où un match des légendes et un concert surprise auront lieu en septembre. L'occasion de pouvoir réellement utiliser le potentiel de la patinoire inaugurée en 2019. Les précisions de Patrick Depreux au micro de Ludovic Turin.
Oui, et puis je pense qu'on a beaucoup souffert évidemment du Covid. Donc cette aréna, elle n'a jamais pu être utilisée comme on aurait souhaité le faire, disons en tout cas à part au tout début. Et je pense que c'est l'occasion aussi de la faire vibrer d'une autre manière qu'avec le hockey uniquement.
Vous parlez du Covid, on n'en a pas forcément parlé, il n'en a pas été question aujourd'hui. Ça reste quand même quelque chose que vous devez prendre en compte, notamment pour tous ces événements-là.
pour le moment, oui. Mais enfin, moi, j'ai personnellement, mais ça c'est un avis personnel, j'ai bon espoir qu'on finisse par se débarrasser de cette saloperie, si vous permettez.
Je vous le permets sans problème. Le mot de la fin, Patrick Depreux, à titre personnel, vous êtes président d'un club centenaire. Tout ouais. simplement, quand vous vous dites ça, à quoi vous pensez ?
Ben, je pense que j'ai déjà participé pour un peu plus d'un dixième à sa vie. C'est beaucoup.
Patrick Depreux, président du LHC, répondait à Ludovic Turin. Enfin, sachez encore que Lausanne portera un maillot spécial pour les 100 ans du club. Le public de la Vaudoise Arena pourra le découvrir lors du match face au HC Ajoie dimanche après-midi. En tennis, Naomi Osaka s'arrête au troisième tour de l'Open d'Australie. La japonaise s'est inclinée en 3-7, 4-6, 6-3, 7-6 aujourd'hui face à l'américaine Amanda Anisimova, tombeuse deux jours plus tôt de Belinda Bencic. La japonaise chutera ainsi au-delà de la 80e place mondiale à l'issue de cette quinzaine.
En ski alpinisme, les festivités seront limitées pour la 25e édition de Valrette Altiski.
Si l'épreuve sera marquée par un jubilé demain, les conditions sanitaires ne permettront pas la tenue des grandes célébrations. Une jauge maximale de 300 participants a notamment dû être introduite par les organisateurs. Mais cette mesure n'empêchera pas la course disputée sur les hauteurs de Verossa de pouvoir compter sur un plateau de choix. Les meilleurs spécialistes du pays seront en effet présents pour tenter de décrocher le titre de champion de Suisse dans la discipline reine de l'individuel. De quoi récompenser les efforts fournis par les responsables de la manifestation et leurs équipes. Un tel rendez-vous nécessite en effet de gros préparatifs, en particulier sur le terrain. Les explications de Jean-Pierre Sierrault, membre du comité d'organisation.
C'est un gros travail déjà dans la préparation et le repérage des parcours et des conditions sur le terrain avant de pouvoir préparer les parcours. Alors ça fait déjà deux dimanches qu'on visite, qu'on scrute Valrette au centimètre carré. Et aujourd'hui, notre chef technique Rafi Frossard et notre responsable du parcours Stéphane Milius sont sur le site encore pour regarder tous les détails des passages. Et à partir de demain, c'est deux jours de traçage et de balisage. Et là, on peut compter sur toujours une cinquantaine de bénévoles qui viennent nous donner un coup de main sur ces deux derniers jours.
Des propos recueillis par Ludovic Turin pour cette 25e édition de Valrette Altiski prévue demain sur les hauteurs de Verossa. Quatre parcours figureront à nouveau au programme. Le principal comptera plus de 2000 mètres de dénivelé positif. Et puis on termine avec du ski alpin. Les Suisses ne joueront pas le podium sur la première descente de Kitzbühel. Alexander Amod Kilde mène le bal après le passage de près de 20 concurrents. Le Norvégien compte 42 centièmes d'avance sur le Français Johan Claret. Quant à la troisième place, elle est occupée pour le moment par l'Autrichien Matthias Mayer. De leur côté, Marco Odermatt et Beat Feutz, double vainqueur sur la Streif l'an dernier, sont en embuscade. Ils occupent les 4e et 6e rangs provisoires.
Retrouvez toute l'actualité en podcast et en vidéo sur radiochablais.ch. La météo avec Allo Smart. Abonnement et réparation de smartphones, toutes marques avec pièces d'origine. Au centre Migros, M Central, à Montet, allosmart.ch.
Un temps ensoleillé dans l'ensemble nous est promis par Météo Suisse pour cet après-midi, avec tout de même la possibilité de voir encore quelques bandes de nuages le long des reliefs. Et puis, il faut compter cet après-midi avec une forte bise sur la Riviera. Cette forte bise qui va renforcer cette sensation de froid. Je disais que cette forte bise était prévue sur la Riviera, mais aussi le long des crêtes préalpines. Il va faire aujourd'hui au maximum 4 degrés en pleine, moins 3 à 1000 mètres et moins 8 à 2000. Pour ce week-end, eh bien, demain samedi, un temps toujours bien ensoleillé nous est promis du Léman au Valais, avec des passages nuageux plus nombreux en direction du nord et du pays d'en haut. Et il faudra encore compter avec cette bise modérée sur la Riviera et le long des crêtes préalpines. Pour dimanche, une couche de stratus nous attendra en matinée. Il sera souvent tenace sur le plateau et la Riviera, avec une limite supérieure entre 1000 à 1300 mètres d'altitude. Ce stratus va se dissiper que localement en cours de journée. Au-dessus de ce stratus et ailleurs, le temps sera ensoleillé avec des températures plus douces en montagne. La bise faible à modérée sur la Riviera sera toujours présente. Dimanche, ce week-end, des températures allant de moins 3 à 4 degrés sont attendues en pleine, de moins 8 à 1 à 1000 mètres, de moins 8 à moins 3 degrés à 2000.